Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média après une pause Covid. On n'est jamais trop prudent. Merci à l'équipe d'avoir tenu la boutique et merci à Thomas Hill d'avoir tenu le micro. C'était un plaisir de vous écouter chaque matin. En plus d'une Madeleine de Proust qui ramène aux années d'écolier de lycéen. Souvenez-vous, le plaisir d'être à la maison alors que les autres sont en cours. Mais ça y est, les affaires reprennent comme chaque jour. Tous les médias, toutes les formes de culture. Et le contentement de retrouver notre trio magique Bruno Donnet pour ses télescopages, Jean-Luc Lemoine et sa session de rattrapage, et Louise Bernard pour le journal des médias. Notre infomédia, justement, va balayer deux siècles de scandales et de chefs-d'œuvre de la littérature avec une initiative formidable. Chronique, 50 chefs-d'œuvre de la littérature vus par la presse. Oui, 50 romans parus entre 1802 et 1951 avec les commentaires d'époque. De Céline à Proust en passant par Baudelaire, vous allez voir que même Stendhal se fait démolir. Nos invités ensuite, François Triot et Laura Di Muzio, c'est le duo phare qui va incarner la Coupe du Monde féminine de rugby 2021. Oui, 2021, qui démarre samedi, le 8 octobre 2022, donc sera jusqu'au 12 novembre. Et contrairement au tournoi des 6 nations, tout va se passer sur TF1 et MyTF1. On va parler du jeu et des enjeux. Enfin, l'humoriste Christelle Chollet pour son nouveau spectacle reconditionné, mot d'époque. Elle nous expliquera la différence entre réparer et reconditionner, à commencer par elle-même, car elle ne s'épargne pas, oh que non. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Lise Bernard.
Bonjour Philippe, mais ravi de vous retrouver.
Pas, j'allais le dire, vous me l'avez ôté de la bouche. Ravi de vous retrouver, quoique je vous écoute tous les matins, au sommaire de ce journal des médias de ce mardi.
Oula, grosse actu média pour votre tour.
C'est je sais. J'ai vu ça, c'est dingue ce qui s'est passé hier, dans la
M6
journée.
M6 n'est plus à vendre. Ouais. Voilà, ça y est, ce n'est plus à vendre. On a aussi un changement de directeur de l'information à France Télévisions.
C'est pas rien.
Et puis Aurel San a une grosse surprise. Et un cinquième coach dans The Voice Kids, ce n'est pas la surprise d'Aurel San, ce sont deux choses distinctes.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé.
Ils ont regardé TF1, la suite de la série Les Combattantes, 4 590 000 téléspectateurs hier soir. C'est en hausse hein, par rapport à la semaine dernière, 23,2% de part d'audience. Deuxième, c'est M6 avec L'Amour est dans le pré, en hausse là aussi, hein, 4 millions de téléspectateurs. Très bon score hier soir, 20% de part d'audience, 20% c'est le record en part d'audience de la saison. Et puis surtout M6 est leader sur les fameuses femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'est ça la cible commerciale si importante pour les chaînes privées, 31,2%. Troisième, c'est France 2 avec la suite de la saison 4, Les Rivières Pourpres. Alors moins en forme, Les Rivières Pourpres en baisse, 2 480 000 téléspectateurs, 12% de part d'audience.
Europe 1, le journal des médias.
À la une, ils font des très bons scores à l'antenne et M6 n'est finalement plus à vendre.
L'actionnaire majoritaire allemand Bertelsmann renonce à vendre ses parts, c'est 48,3%. La faute, un timing trop serré. Dans un communiqué, il précise que les risques et incertitudes juridiques sont trop élevés en raison de processus d'approbation requis. En gros, la vente aurait dû être soumise aux autorités de la concurrence, puis à l'ARCOM, tout cela avant mai 2023. Hein, je vous l'ai souvent dit ici, c'est la date de renouvellement de l'autorisation de diffusion d'M6. Et donc, c'est la date à laquelle tout changement de contrôle est ensuite impossible pendant 5 ans, c'est la loi. Et c'est pour cela que la semaine dernière, le président de l'autorité de la concurrence et celui de l'ARCOM avaient parlé de calendrier très tendu et même ultra serré lors de leurs auditions devant les sénateurs. Visiblement, Bertelsmann a bien entendu ces auditions.
Et alors désormais, c'est donc une autre bataille qui commence.
Oui, celle pour le Canal 6. M6 va évidemment demander le renouvellement de son autorisation de diffusion, mais d'autres acteurs peuvent aussi demander à le récupérer en présentant des projets. Mais si, il y a un appel à candidature par l'ARCOM. Et donc, ceux qui étaient intéressés par le rachat d'M6 pourraient se positionner. On peut l'imaginer, on le saura en tout cas dans les prochaines semaines. On n'a pas fini d'entendre parler d'M6.
La suite du documentaire consacré à la vie d'Aurel San va sortir bientôt.
Oui, annonce surprise par Aurel San lui-même hier en fin d'après-midi sur ses réseaux sociaux. Alors, on savait qu'il y aurait une suite, mais le rappeur vient de dévoiler la date de sortie. Et c'est dans moins de 10 jours, dans le 13 octobre, sur Amazon Prime Video. C'est ce documentaire filmé par son frère au plus près, hein, des années passées à filmer l'intimité du rappeur. Et après une première saison sur ses débuts, sur comment il a percé, la deuxième va s'intéresser à la suite. Une fois le succès arrivé, comment le garder ?
J'avais une question en tête. Comment il allait revenir après son plus grand succès.
On sait qu'il y a un enjeu de ouf sur l'album.
Je voulais tout filmer. Du premier mot écrit à la dernière note jouée.
On est dans les studios de Pharrell Williams.
On va gagner !
Aurel, il est toujours tout seul au début.
Ah bah c'est du propre.
Faut le laisser.
Mais pas trop.
ses coups de folie et ses éclairs de génie.
J'ai de l'inspi. Tous les trucs auxquels je pense sont bien. Je descends aussi bas que je suis monté haut. Putain de merde! Mais je trouve tout nul. Je me suis trompé de branche. Je chante faux et je sais pas faire de musique.
Un extrait de la bande-annonce publiée sur ses réseaux sociaux hier. C'est donc une deuxième saison dans les coulisses de la confection de son dernier album, Civilisation. Bon, je vous spoil un peu, hein, ça a cartonné aussi. Je crois que c'est l'album le plus vendu en 2021, si je me trompe pas. Et d'après la bande-annonce, le documentaire promet toujours d'être aussi près de l'artiste. On y voit même quelques images de son mariage.
On quitte les plateformes pour la télévision publique. Là encore, coup de tonnerre, France Télévisions change de directeur de l'information.
Laurent Guimier est remplacé par Alexandre Cara, nommé directeur de l'information, et Nathalie Saint-Cricq, nommée coordinatrice en charge des évolutions éditoriales de l'information. On ne sait pas trop ce que ça veut dire exactement pour l'instant. Personne ne veut trop parler. C'est normal, on attend un petit peu avant. Ces noms ont été annoncés dans un mail interne aux salariés. Delphine Arnault, la présidente de France Télévisions, n'y justifie pas l'éviction de Laurent Guimier. Elle indique simplement le remercier sincèrement pour la couverture de façon tout à fait exceptionnelle des élections françaises et la guerre en Ukraine. Donc pas de raison officielle donnée, mais il faut dire que Laurent Guimier avait eu une motion de défiance en juin dernier, motion votée par près de 80% des journalistes. Il était pourtant resté en poste à ce moment-là. Alors le journaliste ne quitte pas pour l'instant France Télévisions, en tout cas plusieurs propositions d'autres postes lui ont été faites, mais il se pourrait bien qu'il soit candidat à la présidence de Radio France. C'est en tout cas le bruit qui court dans ce petit monde qu'est celui des médias.
Et comme chaque mois, Médiamétrie publie les audiences mensuelles des chaînes. Celles de septembre viennent de tomber, Louise.
Oui, et celle que j'ai tout de suite regardée, comme tous les journalistes médias, c'est celle du groupe TF1. Mais oui, pourquoi ? Parce que Canal+ a coupé la diffusion de TF1, TMC, TFX, TF1 Série Filmée, LCI depuis le 1er septembre. Vous le savez maintenant, hein, si vous nous écoutez régulièrement, c'est une coupure faute d'avoir trouvé un accord financier, car Canal+ estime ne pas avoir à payer TF1 pour la diffusion de ses chaînes gratuites. Or, cette coupure a un impact sur les audiences. TF1 a parlé de 8 à 10% de baisse selon les jours. Alors qu'en est-il au bout d'un mois de coupure ? Le plus gros impact est sur la chaîne TF1. Elle réalise la plus mauvaise audience de son histoire avec 17,7% de part d'audience contre 20% un an avant, au mois de septembre 2021. Bon, évidemment, on ne pourra jamais déterminer précisément si la chute d'audience est due uniquement à la coupure de Canal+.
Qu'en est-il des autres chaînes du groupe TF1 ?
Alors TMC et TF1 Série Film sont en baisse elles aussi. TFX, elle, augmente légèrement. Et puis, il reste LCI. Et là, contre toute attente, c'est une très bonne audience, la meilleure de son histoire. C'est aussi la meilleure progression des chaînes d'information. En plus, c'était déjà le cas au mois d'août. Il faut dire qu'aussi, les chaînes d'information ont été portées par l'actualité, hein, avec le décès de la reine d'Angleterre. Seul CNews baisse légèrement. Le classement des chaînes d'information reste le même. BFM TV largement en tête à 3,5%. CNews à 2,1%. Et LCI qui s'en approche à 1,8%. France Info reste loin derrière à 0,9%.
Et pour les autres chaînes, les chaînes généralistes ?
Eh bien, meilleure rentrée de son histoire pour France 5, une des meilleures aussi pour France 2, excellente audience pour C8 et Canal+.
Une annonce qui va peut-être remonter les audiences de TF1, en tout cas on leur souhaite, pour sa finale samedi, The Voice Kids va faire appel à un cinquième coach.
On est désigné comme un super coach, même par la production. C'est un cinquième coach qui va assister aux répétitions, qui aura le droit à son propre fauteuil rouge lors de la finale et qui chantera aussi avec les jeunes talents de l'émission. Alors qui sera aux côtés de Julien Doré, Patrick Fiori, Kenji Girac et Luan ? Vous voulez un indice, Philippe ?
Bien sûr.
En musique.
Ça fait comme jamais, c'est un couturier, c'est Jean-Paul Gaultier. Mais non.
Je me suis dit, mon effet est totalement raté.
Ouais, mais non,
c'est
Gims,
c'est un chanteur.
Mais, oui.
Mais c'est vrai que Jean-Paul Gaultier, ceci dit, a fait partie du jury de Danse avec les Stars.
Voilà, c'est pour ça que je l'avais dit.
Non, là,
ex-maître Gims.
On reste, c'est ça, on reste avec des chanteurs. Gims, hein, l'artiste avait déjà évoqué dans des interviews son envie de faire l'émission. Son nom avait d'ailleurs circulé, la production lui avait bel et bien proposé. Mais il avait dit ne pas avoir trouvé le temps. Mais qui sait, peut-être que l'expérience de cette finale lui donnera envie d'en dégager du temps. Il y a 2 ans, c'est Julien Doré qui avait été super coach de la finale de The Voice Kids cette année. Eh bien, il est resté toute la saison.
Merci beaucoup, Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. C'est gratuit, c'est sur europe1.fr. Je vous dis à demain, mercredi, pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour, ce que les critiques littéraires racontent de notre société. Et ce, depuis 2 siècles, nous serons avec Étienne Manchette et Jacques Bronstein. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Chef-d'œuvre au pluriel, imposture au pluriel, surprise et déception au pluriel, exactement. Tous les ans, c'est le lot de la rentrée littéraire. Près de 500 livres ont été publiés à la fin de cet été. Les journalistes sont là pour nous aider à choisir. Des livres qui sont sur les listes de prix, à ceux qui ne mériteraient même pas d'être publiés, les critiques s'écharpent à leur sujet. Et c'est pas nouveau, car cela dure depuis deux siècles au bas mot. De Madame de Staël à Virginie Despentes, en passant par Marcel Proust ou Céline, qui sont les vainqueurs, les oubliés et les grands scandales? Dans quelle mesure la critique littéraire raconte-t-elle notre société? Avec nous, deux connaisseurs de la littérature passée et contemporaine et une initiative assez exceptionnelle qu'on est heureux de souligner ici dans Culture Média. Étienne Manchette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur-chef de Retro News, le responsable éditorial, comme on dit, site de la presse de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. D'un mot, c'est quoi Retro News?
Alors, en gros, c'est le site qui met en accès avec Gallica... Par ailleurs, à quelques millions et millions de pages et millions d'articles sur trois siècles et demi. Donc voilà, c'est une grosse base. Et puis après, nous, on crée toute une partie éditoriale autour de ça.
Avec nous, Jacques Bronstein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste culturel, membre du jury du Prix de Flore. Vous écrivez dans Lire, Vogue, Technicart, surtout sur les livres, les essais et les romans. Étienne Manchette, je l'ai dit, une initiative assez exceptionnelle. Retro News publie un beau et gros livre chronique. Point d'exclamation, 50 chefs-d'œuvre de la littérature vue par la presse et chez Flammarion, soit 50 livres parus entre 1802 et 1951 avec les commentaires d'époque et même des facsimilés. C'est une très bonne idée, très bien réalisée. Pourquoi ces bornes chronologiques et comment s'est fait le choix des œuvres?
Le choix, il était assez compliqué parce que du coup, il faut choisir. Et donc, c'est forcément une réduction. Ce qu'il fallait, c'était...
Vous avez choisi en fonction des articles ou ouais. En fonction des romans ou un mélange des deux?
Alors, un peu tout parce qu'il nous fallait sortir un peu des choses qui étaient très marquées, genre les femmes. Les femmes, par exemple, il y a très peu de femmes qui sont chroniquées ou alors qui écrivent sous pseudo en général. Et puis on a aussi voulu mettre des choses qui sont plus mainstream, c'est-à-dire des Jules Verne, etc., pour savoir comment c'était reçu, mais aussi tout ce qui était des Rachilde. Par exemple, Rachilde, c'est quand même celle qui était comparée à Baudelaire féminin et qui se fait défoncer en permanence en fait sur ce qu'elle écrit, parce qu'elle écrit des histoires tordues, des histoires très... Pas correct pour l'époque, donc l'ordre moral triomphe. Et nous, on a essayé de faire un mix un peu de tout ça.
Il y a d'autres aussi qui sont défoncés, genre Stendhal, qui est vu maintenant comme un chef-d'œuvre.
Tout
à fait.
Mais
il n'était pas perçu à sa juste mesure. Il dit, c'est pas la peine de changer de pseudo pour écrire des inepties pareilles. Je résume à grands, grands traits. On est une émission média. Quels étaient les grands journaux du 19e et du 20e siècle, Étienne Manchette, et lesquels ont perduré? De mémoire, je dirais qu'il ne reste que Le Figaro et la Revue des Deux Mondes.
Alors tout à fait, il y avait la presse qui était vraiment le grand journal. Après, à l'intérieur de ça, nous, ça évolue quand même. C'est-à-dire que Ce Soir, Combat et tout ça, qui sont les journaux d'après-guerre ou d'avant-guerre pour Ce Soir, la Gazette, en fait, le Mercure de France et tout ça, ça, c'est les premiers qu'on a dessus. Donc on a toute une typologie, en fait, de titres de presse qui n'ont pas les mêmes... vocation et surtout qui englobe ce 19e siècle qui passe en fait, qui est le siècle, la civilisation du journal, hein, comme on l'explique. Et donc entre 1860 et 1890, il y a un monde entier de presse qui s'établit, qui devient industriel. Et donc, on change complètement de mécanique d'information. Quoi.
Et qu'on voit très bien dans le film Illusion perdue. Alors, puisqu'on est au 19e siècle, on va parler de l'année 1857. Elle connaît deux scandales, Les Fleurs du Mal de Baudelaire et la publication de Madame Bovary de Flaubert. Je pense à tous les élèves qui sont en train de travailler dessus, si c'est au programme de bac français. On peut lire ceci dans le Figaro au moment où ça sort. C'est-à-dire qu'on est le 28 juin 1857. Monsieur Flaubert n'est pas un écrivain. Description à part, son style est indécis, incorrect, vulgaire et son école, si elle venait à prévaloir, serait l'invasion du daguerréotype, du parler de la rue et bientôt après du patois sous prétexte d'exactitude et de naturel. Un procès lui était intenté. Pourquoi ce genre de procès était possible à l'époque? C'est parce qu'on avait dit que ce livre était amoral ou immoral, je ne me souviens plus exactement.
Alors complètement, mais Baudelaire c'est pareil, c'est-à-dire c'est un charnier... À cœur ouvert, enfin, il y a vraiment des expressions assez dingues. Après, il faut bien voir qu'il y a un positionnement moral de la critique qui est plus valable aujourd'hui, ou en tout cas nettement moins. Alors qu'au début, toutes les œuvres, les Delphine de Madame de Staël, etc., c'est un jugement moral qu'on porte sur les écrivains, sur ce qu'ils arrivent à sortir. Et donc voilà, et puis l'ordre moral, la presse participe énormément de l'ordre moral tout le long du 19e, donc c'est quand même assez important.
Jaime Bronstein, je ne vais pas faire de vous le parangon du 21e siècle, mais à quoi on peut dire que Baudelaire a été le premier auteur à scandale? Est-ce que vous savez, moi je ne le sais pas, à partir de quand Baudelaire a été étudié en classe?
À mon avis, c'est notre génération.
Pour moi, c'est 68, mais
oui, c'est à peu près ça.
Avant, j'étais trop petit, je ne me rends pas compte s'il était étudiant en 67.
Non, c'est à peu près ça. Baudelaire est resté dans l'enfer, ou plutôt le purgatoire, pendant un siècle. Parce qu'au 19e siècle, il fallait être de bonne famille, avoir de bonnes mœurs, de bonnes idées. Je dirais qu'au 20e siècle, ça a changé. Il faut être dans le bon réseau et chez le bon éditeur.
Est-ce que, de ce que vous avez vu, est-ce que beaucoup des chefs-d'œuvre sont passés inaperçus?
Ah bah, c'est justement ce qu'on a essayé de montrer dans le livre, c'est que, encore une fois, Rachilde, par exemple, c'est vraiment considéré à l'époque par certains comme vraiment une des plus grandes écrivains qui puisse y avoir. Donc il y a forcément des variations dessus, quoi.
Et inversement. Je parlais de Stendhal.
Ouais.
On explique que c'est verbeux, que c'est trop long. Que...
Ouais, bah, de toute façon, il y a ça qui triomphe, c'est-à-dire qu'il y a. C'est marrant ce positionnement, cette manière d'écrire. Après, il y a les journalistes sont aussi des écrivains. Octave Mirbeau, qui est unique voilà, dans son écriture, il est extrêmement acide. Donc il y a aussi des écrivains qui sont critiques d'art, et c'est ça qui fait toute la beauté. Mais pour Baudelaire, il finit quand même par réécrire quelques années après dans le Figaro.
La question qu'on se pose évidemment, et c'est pour ça que je voulais que Jacques Bronstein soit avec nous, est-ce que c'est une autre époque? Vous parlez du 19e siècle, Jacques Bronstein, est-ce qu'il y a des auteurs complètement oubliés par la critique d'aujourd'hui, ou alors des auteurs qui n'ont jamais reçu aucun prix malgré un grand succès populaire, et inversement, des fausses valeurs?
Alors, des fausses valeurs, je ne me prononcerai pas.
Parce que vous voulez dire vacher.
Oh si, moi je veux bien me fâcher, je peux vous donner un nom ou deux, mais c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est est-ce... Aujourd'hui, on focalise sur le Goncourt et on dit toujours « Ah bah machin n'a pas eu le Goncourt, Bidule n'a pas eu le Goncourt ». Mais finalement, si on rajoute le Goncourt, le Renaudot, les autres prix, le Nobel, l'Académie, l'un dans l'autre, à peu près tous les auteurs qui ont été importants ont été remarqués par le système parce que le système s'est élargi. Alors qu'au 19e siècle, ça marche pas très bien. Il faut quand même voir que Dumas, Balzac, Zola, Flaubert, Maupassant, et Baudelaire, aucun n'a été pris à l'Académie française parce que ça fait beaucoup, à part Victor Hugo, en gros, dans les grands auteurs du... Alors qu'aujourd'hui, si on...
C'est justement des auteurs qu'on qualifie d'académiques maintenant.
Aujourd'hui, ils sont devenus académiques, c'est ça qui est fou. Et ouais. Je crois que Stendhal, c'est le cas aussi. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même un système plus large, parce que par exemple, on dit, oui, Sartre et Camus n'ont pas eu le prix Goncourt. Oui, enfin, ils ont eu le prix Nobel, donc ça va quand même, ils n'ont pas été oubliés. J'ai trouvé deux auteurs qui n'ont pas été reconnus par le système. C'est d'une part Françoise Sagan. Elle n'était pas chez le bon éditeur et elle avait un truc, c'est que ça la faisait suer de discuter avec les membres des jurys.
Mais bonjour, Tristesse, ça ne pouvait pas être en Goncourt, c'était un coup de poing d'un...
Ah voilà, elle a eu le prix de la critique et après elle n'a plus jamais eu aucun prix. Parce qu'en fait, elle préférait discuter avec des danseurs, des chanteurs, aller en boîte de nuit que de discuter avec des vieux barbons, des jurys littéraires. Et l'autre, c'est Simenon. Non seulement il venait de la littérature populaire, mais en plus il habitait en Suisse quand même.
Il faisait du polar.
Voilà, il était belge, il faisait du polar, il habitait en Suisse et bah, ça faisait trop là.
Voilà. On n'a pas parlé des Goncourt qui n'ont pas été donnés de manière contemporaine, ou alors des Goncourt qui ont été donnés et à qui ça aurait pu nuire à la carrière du récipiendaire, à savoir Marcel Proust. Culture Média continue à tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Chronique 50 chefs-d'œuvre de la littérature vue par la presse et publiée par Retro News, le site de presse de la BNF, la Bibliothèque nationale de France et Flammarion. Retro News signifie que ce sont des chroniques historiques. C'est au moment où le livre sort, exemple, le portrait de Dorian Gray, chroniqué par Octave Mirbeau.
Ouais, alors justement, à l'époque, c'est du. Comment ça s'appelle ? Dorian Gray, il se fait...
Oscar Wilde.
Il se fait dessouder complètement. Il est en plein procès à ce moment-là. Mm-hmm. Donc c'est une figure qui est en train de se faire démolir vraiment complètement voilà, pour homosexualité. Et Mirbeau, il arrive et lui, il va prendre la défense de ce portrait-là. Et il dit, bah voilà, j'ai jamais vu autant de l'ordre moral, encore une fois... triomphe, quoi.
On parlait des prix littéraires, on parlait du talent reconnu ou non. D'abord, ça fait partie de la légende. Marcel Proust n'a pas trouvé d'éditeur tout de suite. Il a été édité chez Grasset à compte d'auteur. C'est bien ça.
À compte d'auteur.
Il a payé pour être publié.
Pour être publié, comme c'était long, Grasset lui a rajouté un supplément en disant « Il y a vraiment trop de lignes dans votre livre, monsieur. »
Et ça se termine pas là.
puisqu'ensuite, après que personne ne veuille de lui, il a le Goncourt. Mais là, malheureusement, cadeau empoisonné. Racontez ce qui s'est passé. Qui veut raconter?
Il a le Goncourt contre les croix de feu de Maurice Genevoix. On est en 1919. Il y a donc le livre de Proust d'un côté, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, et de l'autre côté, un ancien poilu qui raconte la guerre de 14. Donc, scandale.
De 14-18, c'est un an après la guerre. Ça pour les plus jeunes qui nous entendent.
Oui. C'est scandale. Ouais. Il y a un héros national qui raconte la souffrance des poilus, et en face, ce mondain qui raconte. Comme on disait, la baronne est sortie à 5 heures et des histoires de l'aristocratie sur des plages normandes, a le prix. Et je dois dire d'ailleurs que si on regarde un petit peu, il a le prix parce qu'il a un énorme réseau mondain. Parce qu'à l'époque, on ne trouve pas Proust si incroyable. Sa langue paraît un peu démodée. Il n'y a pas encore eu toute la recherche qui nous permet de savoir que c'est un écrivain majeur. Donc tout le monde dit, bah oui, on l'a donné à un mondain qui n'a aucun intérêt alors qu'il y avait un grand livre d'un héros.
Voilà. D'autres exemples de prix non mérités ou de moments de chefs-d'œuvre non repérés par la critique.
Rétrospectivement, ils ont eu raison malgré eux.
Étienne hein. Ouais. Manchette.
Non, mais après, pour revenir sur Proust, Proust, c'est avant tout un mondain, et quand il écrit un texte qui est absolument génial à la une du Figaro, qui s'appelle Un parricide, enfin, il fait l'apologie, en fait, et rendre compréhensible quelqu'un qui a tué sa propre mère, c'est il y a tout bien avant le temps perdu, et c'est vraiment c'est un superbe écrivain de presse, quoi, déjà.
Céline, la sortie de Céline, ça se passe comment?
Mal. Mal. D'ailleurs, il y a une superbe illustration où le seul qui n'a pas sa photo dans toute la liste, c'est
oui,
lui.
Oui, j'ai vu. Il y a la photo de tous les candidats au prix Goncourt, sauf Céline, parce qu'il n'avait pas voulu ou parce que personne ne voulait de lui?
Je crois que c'est lui qui n'a pas voulu.
Jacques Brunstein, on va avancer dans le temps. Il y a aussi des auteurs malheureux, ceux qui n'ont pas été publiés quand ils voulaient, ou alors qui ont été publiés en même temps que d'autres auteurs de renom. Moi, je pense à Paul Constant, dont j'ai appris l'existence. C'était en 98, parce que cette année-là, tout le monde disait que c'était Houellebecq qui allait avoir le Goncourt avec les particules élémentaires. Il ne s'est pas passé ce qui avait été prévu, raconté.
En gros, effectivement, le pire qui puisse vous arriver, c'est d'avoir le Goncourt une année où Houellebecq sort un livre, et il y a tout le milieu qui dit c'est Houellebecq qui devrait l'avoir. Or, les jurys du Goncourt m'ont mis très longtemps à se laisser convaincre, puisque les particules élémentaires, c'est en 98, et ils n'ont donné le Goncourt qu'en 2010. Mmh. Donc, Paul Constant, en 98, on dit oh, bon, c'est quand même un petit roman par rapport aux particules élémentaires. Je crois que Houellebecq lui-même a dit ça n'est pas un mauvais roman, c'est plutôt un roman raté. Vraiment très aimable. Et en 2001, Jean-Christophe Rouffin, on a dit, mais enfin quand même, c'est Plateforme qui aurait dû l'avoir. En 2005, François Veillargans, on a dit, quand même, ça aurait dû être La possibilité du Nil.
Ah oui, c'était une journée chez ma mère, si je me souviens bien.
Trois jours chez ma mère.
Ouais, trois jours chez ma mère, pardon.
Un peu plus long.
Une journée chez ma mère, c'est Charlotte de Turckheim, pardon.
et donc, en fait, ça a été l'épine dans le pied du jury Goncourt pendant 15 ans. Et quelque part, est-ce qu'ils lui ont donné, parce que vraiment, ils ont aimé La carte et le territoire, ou est-ce qu'ils lui ont donné en se disant, bon, faut que ça cesse, faut qu'on arrête de nous dire à chaque fois qu'on ne le donne pas à Houellebecq. Bon, voilà, maintenant, ils lui ont donné, maintenant, ils sont un peu plus tranquilles.
Et puis alors, vous dites qu'il y a des auteurs primés qui ont totalement disparu de la circulation, comme Alexis Génie, auteur de L'art français de la guerre, expliqué.
Alors, en 2011, il sort L'art français de la guerre, et tout le milieu des jurés adore ce livre. Il faut dire qu'on est un an avant les 50 ans de la fin de la guerre d'Algérie, et toute la question du colonialisme qui est dans ce livre passionne le microcosme parisien. Et le Goncourt veut lui donner, le Renaudot veut lui donner, je crois même que le Médicis veut lui donner, et Emmanuel Carrère aura le Renaudot parce que le Goncourt a été donné à Alexis Génie, et Emmanuel Carrère est un prix de c'est un candidat de consolation, alors que Emmanuel Carrère est considéré aujourd'hui comme peut-être un ou des deux plus grands écrivains français. Et Alexis Génie, ce qui est très étrange, c'est que alors que tout le monde voulait lui donner pour son premier roman, après il en a sorti 5, je crois que personne n'a jamais entendu parler des romans d'Alexis Génie. Il était au bon endroit au bon moment, et ça lui a joué des tours.
Étienne Manchette, dans quelle mesure les critiques littéraires reflètent l'évolution de notre société? Qu'est-ce que vous avez découvert de manière transversale en préparant cet ouvrage?
Alors, ce qu'on a découvert, c'est surtout qu'il y a tout un déroulé en général qui part justement d'une critique plutôt des hommes et des femmes qui écrivent. C'est vraiment cette partie-là, jusqu'à quelque chose qui est beaucoup plus littéraire, qui rentre en fait dans des considérations qui sont vraiment les mots. Alors le seul qui fait pas ça, c'est justement Octave Mirbeau. C'est lui, il a toujours été énormément dans le texte, mais voilà, on a ce prisme-là qui est cette évolution d'une de pouvoir rentrer dans la littérature à partir de des années 30, quoi.
Est-ce que les critiques littéraires, les papiers étaient lus comme aujourd'hui? Est-ce que c'était prescripteur, comme on dit?
Ah bah alors, prescripteur de moralité et prescripteur aussi de vente, évidemment.
Non, évidemment, non. Il y a des romans qui se font sans la critique. Je pourrais citer des milliers de groupes qui n'ont pas été repérés par les critiques musicaux. Je pourrais citer des dizaines de films qui sont encensés et que personne ne va voir, et un film que personne n'avait repéré qui remplit les salles.
Ouais, mais alors, par exemple, sur Jules Verne, on est sur un consensus, sur un élément de découverte au 19e. Tout le monde adore d'aller voir les sciences, de la manière dont il raconte ça. Les Trois Mousquetaires, c'est pareil. Cette jonction entre raconter une histoire et l'histoire, c'est tout le monde adore.
Avant que je demande à Jacques Bronstein si les critiques aujourd'hui ont du pouvoir, il faut quand même situer le contexte qui est totalement différent. C'est qu'aujourd'hui, en cette rentrée, il sort 500 romans par an. Combien de romans sortaient dans l'année? C'était pas 500 par an. On pouvait faire une recension exhaustive des romans qui étaient sortis dans le mois, quasiment.
Ouais, tout à fait. Après,
c'était quoi? C'était une dizaine par mois de romans ou de vingtaine?
Ouais, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup plus.
Ouais. Aujourd'hui, est-ce que les critiques littéraires ont du pouvoir, Jacques Bronstein, vous qui écrivez dans Lire, dans Vogue, dans Technicart et dans beaucoup, beaucoup d'autres journaux?
Ils en ont moins que dans les années 60 ou 70. Je pense qu'effectivement, la presse se vend moins, les critiques sont moins prescripteurs. Mais il y a quand même un système. Si ça plaît aux critiques, souvent ça plaît aux blogueurs et ça plaît aux libraires, je dirais que les critiques ne sont plus des héros solitaires et le critique seul peut dire « moi, j'aime ça » et le monde entier va s'y rallier. Mais ils font partie d'un système qui a quand même encore un système de prescription. Il faut qu'ils soient un peu plus modestes, peut-être, qu'il y a quelques années.
Est-ce qu'il y a des livres de journalistes comme il y a des musiciens pour musiciens?
Je pense...
Il y a des groupes qui sont adorés des musiciens, mais oui, pas du grand public. Est-ce qu'il y a des romanciers de journalistes?
Oui, oui. Et justement, c'est ce qui a fait le succès de Houellebecq, c'est que c'est à la fois un succès très grand public et en même temps, ça plaît beaucoup aux journalistes parce qu'on est en train de faire des dossiers sur, je sais pas, moi, par exemple, la France périphérique, et paf, Houellebecq, il le met dans son roman. Donc, Houellebecq, ce qui a beaucoup plu, c'est que c'est à la fois un auteur pour journalistes et un auteur grand public. Et d'une autre manière, Emmanuelle Carrère, il y a ça aussi. Et aujourd'hui, Virginie Despentes, on voit bien, elle parle de MeToo, c'est exactement ce dont on a envie en ce moment, parce que c'est le sujet du moment. Envie, je ne sais pas si c'est le mot, pardon. Et en même temps, y a une qualité d'écriture. Elle a à la fois le milieu avec elle et le grand public avec elle.
Merci beaucoup Jacques Bronstein. Merci beaucoup Étienne Manchette. Je rappelle, Chronique, 50 chefs-d'œuvre de la littérature vue par la presse. C'est coédité par Flammarion et Retro News, dont vous êtes le responsable éditorial. Merci d'avoir été avec nous tous les deux.
Merci.
Non, surtout dans
Merci.
Un instant, pour tout à fait autre chose, un autre genre de combat. La Coupe du Monde féminine de rugby. On sera en compagnie du journaliste sportif François Trio et de la consultante pour TF1 également, Laura Di Manzio. On va retrouver également Bruno Donnet pour ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Dans un instant, nous serons avec le duo phare qui va incarner la Coupe du Monde féminine de rugby sur TF1, François Trio et Laura Di Manzio. Mais avant, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Ravi de vous retrouver. Quoique je vous ai écouté tous les matins et tous les jours, vous observez ici, comme tous les autres matins, les soubresauts médiatiques. Et ce mardi, vous avez eu envie d'évoquer une arme dont vous trouvez qu'elle est étrangement trop peu utilisée pour contrer les dérives de la communication politique. J'ai nommé les archives.
Oui, c'est l'observation attentive d'une journée d'actualité politique particulièrement chargée qui m'a donné cette envie d'aller télescoper certaines déclarations que j'ai entendues hier avec d'autres que j'avais entendues avant. Et tout a commencé dès le matin lorsque j'ai vu le président de la République débarquer vêtu d'un col roulé dans ma télé pour me faire une drôle de proposition.
Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir changer les choses ensemble.
Eh ouais, figurez-vous qu'hier, Emmanuel Macron, pas frileux pour de rond, nous a proposé à tous de lui filer des idées très concrètes pour faire changer les choses ensemble.
Et donc avec vous qui portez des idées de changement, qui imaginez des projets pour nos territoires, qui avez des idées très concrètes, de pouvoir nous en faire part en les mettant en commun sur conseil-refondation.fr.
Allons bon. Alors, j'ai eu envie de prendre sa proposition au pied de la lettre et comme il a ajouté une petite contrainte supplémentaire...
Le faire en direct et en toute transparence.
J'ai choisi, cher Philippe, d'expérimenter ma proposition ici, en direct et en toute transparence devant vous. Je suis donc allé chercher dans mon grand placard archives des déclarations anciennes que j'ai collées aux propos politiques que j'ai entendus hier. Et je dois dire que ça a plutôt bien commencé pour Emmanuel Macron, car vous n'ignorez pas qu'il déteste cordialement les membres de la France insoumise. Or, hier, j'ai entendu sur LCI Mathilde Panot défendre son camarade député Adrien Quatennens en des termes plus qu'acrobatiques.
Il est en retrait le temps qu'il faudra.
Mais tout en percevant son indemnité de député.
Oui, puisqu'il est toujours député.
Mais sans faire le travail parlementaire.
Et justifier qu'il puisse ne pas démissionner, mais ne pas travailler non plus, tout en restant rémunéré par les contribuables, parce qu'il a quand même autre chose à faire en ce moment que d'aller bosser à l'Assemblée nationale.
Parce qu'il est en train de gérer le divorce, donc il n'y sera pas.
Donc, je me suis dit que ressortir du placard les propos que la même Mathilde Panot avait tenus au moment où une plainte avait été déposée contre Damien Abad.
Je dis juste que lorsqu'il y a une plainte déposée, il faut déjà écouter ce qui est dit.
Et où, au nom de l'exemplarité républicaine, elle avait demandé sa démission pure et simple.
Vous avez un devoir d'exemplarité lorsque vous êtes ministre. Oui, évidemment, Monsieur Abad doit démissionner.
Ça serait probablement une méthode qui ferait bien plaisir à notre président de la République. Et puis je me suis mis à douter. Car un peu plus tard dans la journée, deux autres informations sont arrivées. La première, reprise par le 20h de TF1, concernait le ministre de la Justice.
Dans l'actualité judiciaire, la Cour de justice de la République a ordonné aujourd'hui la tenue d'un procès contre Éric Dupond-Moretti.
Merde, le garde des Sceaux est visé par une enquête. Mais il reste à son poste. Et la seconde information, eh bien, c'est Anne-Sophie Lapix, sur France 2, qui l'a parfaitement résumé.
Il reste également à son poste Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, est mis en examen pour prise illégale d'intérêt.
Remerde, le bras droit du président de la République est mis en examen et il reste en fonction lui aussi. Bon, alors là, j'ai été contraint d'aller rechercher une archive de 2012, à l'époque où, en pleine affaire François Fillon, un certain Emmanuel Macron avait répondu ceci à David Pujadas.
Si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat ?
Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen.
Un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Formidable archive qui m'a toutefois permis de saisir que j'avais probablement pas tout à fait bien compris les propos de notre président à col roulé.
Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir changer les choses ensemble.
Qui, lorsqu'il dit désormais qu'il veut pouvoir changer les choses, fait très probablement référence au fait de pouvoir lui-même changer son propre avis, où l'on comprend, Philippe, que la communication politique est décidément une discipline d'une incroyable complexité.
Merci beaucoup, Bruno Donnet. Vous savez ce que disait Georges Marchais ? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai toujours dit ça. Bonjour François Triot.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste, ancien joueur de rugby pro, c'est ça ?
Oui, enfin à l'époque, c'est il y a longtemps, on n'était pas professionnels, mais on le vivait comme des pros.
On était en 91, vous ne faisiez que ça, vous avez été champion de France avec Bègle, vous avez longtemps été une des voix du rugby sur Canal, et vous êtes désormais sur TF1, vous vous apprêtez à commenter la Coupe du Monde féminine de rugby 2021, ça va démarrer le 8 octobre samedi jusqu'au 12 novembre. Avec vous, avec nous, Laura Di Muzio, bonjour.
Bonjour Philippe.
Ancienne joueuse de rugby internationale française, combien de sélections ?
À l'époque, on ne les comptait pas, mais j'ai eu pendant la chance d'être pendant 7 ans en équipe de France.
Championne de France avec Lille en 2016, vous étiez une des voix du rugby sur France Télé. Vous serez également sur TF1 pour cette Coupe du Monde. Première question à tous les deux, pourquoi la Coupe du Monde 2021 alors qu'on est en 2022, c'est à cause du Covid ?
Exactement, ça devait avoir lieu l'année dernière et ça a été repoussé d'un an à cause de la pandémie. Et donc elle a toujours cette appellation, mais on sera bien en 2022.
Alors on n'est pas une émission sport, on est une émission média, mais les deux questions se rejoignent. Quel est l'enjeu de cette Coupe du Monde ? Est-ce que la France peut la gagner ? Corollaire, est-ce que TF1 peut faire de l'audience ? Puisqu'on sait que l'audience des matchs est liée à un bon parcours des Bleus. Qu'est-ce qu'on vaut ? C'est quoi nos chances ?
Les chances de l'équipe de France, c'est d'être toujours quasiment dans le dernier carré. Donc, a priori, la France sera dans le dernier carré. Et donc, quand on est en demi-finale, souvent, on n'est pas loin de la finale, hein, par définition.
Mais on n'y a jamais été, si je ne me trompe pas.
Non, jamais.
J'ai lu que les quatre meilleures nations, c'était la France, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande. Et il en manque une, c'est laquelle ?
C'est le Canada.
Ah bon ?
Mais ça peut être l'Australie aussi.
Moins quand même. Le Canada, c'est vrai que c'est une nation qui, sur le volet féminin, s'est pleinement investie sur le rugby et elles ont été championnes du monde en 2014. Et donc, elles peuvent jouer les troubles faites, même si clairement, le trio de tête, c'est celui que vous venez de citer avec l'équipe de France, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre.
Alors, je peux déjà vous prédire des audiences relativement faibles, mais une part de marché énorme. Pourquoi ? Parce que la première rencontre, c'est Afrique du Sud-France. Ça sera le samedi 8 à 3h15. Donc, à 3h15 du matin, il y a peu de gens dans la télé.
Les clubbers.
Mais ceux qui se réveillent vont là pour le rugby.
Oui.
C'est pas pour regarder chasse-pêche et le brame du cerf.
Ouais.
Donc il y aura beaucoup de monde. Quel public attendez-vous et que montrent les études ?
Non, alors moi les études.
Vous dites les clubbeurs, c'est une blague ?
Là c'était une blague. Ouais. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, la Coupe du Monde se joue dans l'hémisphère sud, au pays du rugby en Nouvelle-Zélande. Pour la première fois, elle est sur TF1. Les plus belles affiches seront sur TF1, notamment les matins du week-end, le samedi et le dimanche. Il y a un mag également à l'issue du grand match du samedi. Et effectivement, là, pour l'ouverture, c'est les Françaises qui donnent un peu donnent le tempo, puisque c'est elles qui vont disputer le premier match dans l'Eden Park d'Auckland. Il sera 3h15 en France, 14h15 en Nouvelle-Zélande.
Vous serez où ? Vous serez en France avec le décalage horaire ou vous serez en Nouvelle-Zélande avec le décalage horaire ?
Alors, on sera en France avec le décalage horaire, mais avec la ferme conviction justement de donner envie à chacun d'allumer sa télé, même s'il est 3 heures, et surtout pour ensuite les autres week-ends où les Françaises vont plutôt jouer enfin à début de matinée.
J'ai noté France-Angleterre samedi 15 à 9h et France-Fidji samedi 22 à 8h15. Vous attendez quelle audience ? Combien de personnes il peut y avoir ? Est-ce qu'il peut y avoir 1 million de personnes, qui est un chiffre emblématique, à 3h15 du matin ?
Alors à 3h15 du matin, très honnêtement...
Remarquez, je vous dire, Léa Salamé, dans sa nouvelle émission, oui, Quelle époque, il y avait plus d'un million de téléspectateurs à 1h15, quand ils ont rendu l'antenne.
Mais c'est pour ça. C'est pour ça que, voilà, on va le tenter. En tout cas, on va essayer de relever le défi. Non, plus sérieusement, là, on a fait Japon-France, les deux tests, début juillet, 2 et 9 juillet, et on a franchi le million.
Donc, il était quelle heure ?
Il était entre 8h et 10h. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Donc, 3h du matin, ça sera dur, c'est vrai. Mais en revanche, pour les autres affiches de la Coupe du Monde, oui, on l'espère.
Les 14 plus belles affiches seront diffusées sur TF1. Il y aura tous les matchs de l'équipe de France, tous les matchs de la phase finale, à l'exception de la petite finale, si les Bleus n'y sont pas. Les meilleures affiches des matchs de poule, les troisièmes meilleurs matchs de matchs de poule. Enfin, si vous êtes fan, c'est assez facile à retrouver. Le reste de la compétition sera toujours sur TF1, mais sur la plateforme MyTF1. Et TF1 insiste sur le fait que jamais une telle exposition n'avait été offerte en France à une Coupe du Monde féminine de rugby. Laura Di Musio, vous confirmez, on n'a jamais eu ça.
Oui, c'est un dispositif qui est exceptionnel et qui est génial parce qu'il s'inscrit complètement dans le développement et l'avancée que connaît le rugby féminin depuis maintenant une décennie ici en France, puisqu'on constate une augmentation du nombre d'équipes, du nombre de licenciés femmes. Et donc, ça permet vraiment d'avoir cette exposition maintenant avec cette Coupe du Monde sur TF1. Et clairement, généralement, on a les nations les plus emblématiques qui sont diffusées. Et là, ce dispositif va permettre de faire découvrir toutes les nations aux téléspectateurs.
Ça intéresse qui ? Parce que vous parlez du nombre de licenciés. Parfois, ce n'est pas corrélé au nombre de gens qui regardent. Je pense par exemple au patinage artistique. Ça fait des scores énormes. Il y a très peu de gens qui font du patinage artistique et qui font des triples sauts le samedi et le dimanche à la patinoire de la ville. Ou alors, je pense au décathlon, au biathlon. Il y a très peu de licenciés et une grosse audience qui regarde le rugby. Et le rugby, il ne faut pas dire le rugby féminin. Qui regarde les matchs féminins de rugby ?
Exactement, c'est vrai qu'on fait souvent l'amalgame, mais en fait, c'est un spectacle qui est accessible à tous. Et on parlait tout à l'heure d'audience, il est arrivé sur les gros matchs des France-Angleterre ou des France-Nouvelle-Zélande de faire des pics à plus de 3 millions. Alors, en effet, pas à 3 heures du matin, mais c'est pour ça, en fait, qu'on sent depuis plusieurs années et depuis que les joueuses sont télévisées, qu'il y a cet engouement et cet attrait pour ce qu'elles produisent. Le jeu qui s'est amélioré et puis les résultats qui ont toujours été là. On l'a dit, depuis 4 Coupes du Monde, elles font des demi-finales. Et maintenant que les résultats sont mis en avant, les personnes s'y intéressent.
Ce sont les mêmes règles entre le rugby masculin et le rugby féminin. Je pose la question parce que les règles ont été assouplies, édulcorées pour les jeunes, parce qu'il y avait trop de commotion cérébrale. C'est les mêmes règles.
Alors oui, au niveau international, ce sont exactement les mêmes règles quand vous regardez un match masculin ou un match féminin.
Et c'est le même ballon.
Oui, bah ça je m'en doutais.
Ben non, parce qu'il y a des tailles de ballon. Donc les filles auraient pu peut-être avoir une taille 4, elles ont une taille 5, ce qui a parfois posé quelques petits soucis.
Petite question mercato, vous étiez sur France 4, donc sur France Télévisions, Laura Di Musio, pourquoi vous avez fait le transfert, pourquoi vous avez accepté le transfert sur TF1 ?
Bah, c'est une opportunité qui est incroyable de pouvoir commenter une Coupe du Monde. J'ai eu la chance que les deux chaînes se mettent d'accord exactement et puissent, et puissent me laisser la possibilité de commenter. Donc c'est génial. Et puis en effet, avec François Triot, ça va être un grand moment. Je suis vraiment pleinement heureuse, fière et honorée de pouvoir commenter la Coupe du Monde.
Même question mercato, François Triot, quand avez-vous quitté Canal+ ? Vous présentiez jour de rugby.
Oui, enfin, entre autres, mais, et notamment des commentaires de matchs, mais il y a 5 ans, comme beaucoup de gens d'ailleurs de notre ancienne maison.
Ouais.
Mais en tout cas, moi j'officie sur une radio concurrente à consonance sudiste. Et donc, parallèlement à ça, je collabore avec TF1 avec qui j'ai fait également la Coupe du Monde 2019 au Japon.
Donc je rappelle, la Coupe du Monde féminine de rugby 2021, c'est en 2002, ça démarre le 8 samedi. Si vous êtes en boîte, vous couchez pas, ce sera à 3h15, sinon mettez votre réveil, 3h15, ça sera Afrique du Sud, France, c'est comme ça qu'on dit, et pas France, Afrique du Sud.
Afrique du Sud, France, mais les meilleurs moments seront dans le mag après le match du matin, c'est-à-dire vers 10h environ.
Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Laura Di Muzio. Merci beaucoup, François Trio. Et on vous écoutera, évidemment. Vous serez ici en France. Et il y aura sur place des gens, évidemment, au bord du terrain.
Bien sûr, on a une équipe.
On n'a pas encore pu raconter tout le dispositif. Culture Média continue, évidemment, sur Europe 1. Après les infos de 10h, notre invité, c'est l'humoriste Christelle Cholet pour son nouveau One Woman Show musical. Ça s'appelle Reconditionné. Et puis, dans les indispensables cinéma avec Olivier Benkemoun, on va être au cœur de l'antiterrorisme pendant l'enquête qui a suivi les attentats du 13 novembre. Et puis un événement jeu vidéo très très attendu, c'est Jean Z qui nous dira tout, c'est évidemment FIFA 13. Jean-Luc Lemoine arrive pour sa session de rattrapage, à tout de suite sur Europe 1.